C-L-I-D.
En anglais, on dirait Understanding the Dark Side of the Universe.
Understanding the Dark Side of the Universe.
Euclide.
C'est une aventure humaine qui est unique, hein. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs dans le monde. Ouais, il y a l'excitation de la découverte et puis d'amener sa contribution à toute une aventure humaine.
Euclide.
Quelque chose qui interpelle, quoi.
Mission Euclide.
Le métier à tisser l'univers.
À ce jour, nous connaissons seulement 5% de la matière qu'il compose. Et selon les hypothèses actuelles des scientifiques, les 95% inconnus seraient constitués de matière noire et d'énergie sombre dont on ne connaît pas les vraies natures. C'est pourtant cette énergie sombre qui expliquerait l'accélération de l'expansion de l'univers, découverte en 1998. Et si on cherchait à en savoir plus ? L'Agence spatiale européenne a lancé une mission pour tenter de découvrir l'invisible, la mission Euclide. Euclide, c'est deux instruments ultra-performants, dont la plus grande caméra infrarouge jamais lancée dans l'espace, qui donnera des mesures d'une précision inégalée à ce jour, montée et testée ici, au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Euclide, c'est la coopération de plus de 220 laboratoires, dans 16 pays, pour plus de 6 ans de mission du satellite dans l'espace, et plus de 170 millions de gigaoctets de données à traiter. Euclide, c'est ici, et c'est là-bas. Décollage en 2022.
Pensez-vous, Christian Smaïn, que le financement de la recherche spatiale va s'accroître dans le futur ?
Il y a deux choses. Est-ce que la volonté d'aller rechercher encore et de connaître davantage sur nous et sur l'univers est important ? Ça, c'est évident. Et je pense que tout le monde sera d'accord pour essayer de déterminer toute cette connaissance qui a conduit à la science actuelle. Et qui conduira aux sciences futures, forcément. Est-ce que le financement suivra pour aller rechercher ? J'espère, parce que c'est quand même quelque chose de non seulement d'intéressant, mais quelque chose qui va nous permettre ensuite d'améliorer un peu la vie sur la Terre aussi, peut-être, avec toutes les inventions, toutes les avancées technologiques même, et avec les avancées aussi philosophiques, je pense. Après, est-ce que l'argent va être dans la recherche, dans le spatial ? En tout cas, dans la recherche pour aller sur Mars, je pense que ça, les Américains ont déjà mis de l'argent. Et je pense que les Asiatiques vont mettre beaucoup d'argent dessus. Est-ce que les Européens vont mettre, bon, peut-être. Je pense que ça va être le prochain pas. Et après, dans la recherche dans le spatial, à voir. On aura déjà la recherche dans les ELT et l'argent dans les extrémités de large télescope sur Terre. Donc ça, c'est déjà un pas. Après, dans l'espace, on verra.
On mesure le degré de civilisation ou le degré d'avancée d'une civilisation dans l'intérêt qu'elle porte et dans les moyens qu'elle met aux scientifiques pour comprendre l'univers qui nous entoure, le monde dans lequel on vit. Depuis le début des temps, si vous voyez les différentes civilisations, on voit toujours quand il y a une civilisation à la pointe, elle investit de l'argent avec des scientifiques pour comprendre le monde qui nous entoure et le monde dans lequel on vit. Pour en arriver à l'investissement d'argent actuellement, c'est vrai que nous, on fait ce qu'on appelle de la recherche fondamentale. C'est de la recherche pour comprendre le monde, l'univers, la matière qui nous entoure, qui nous constitue. Et c'est vrai que si on regarde que ça, c'est pas du rentable immédiat. Donc ça peut être économiquement un petit peu rébutant. Par contre, toutes nos expériences, tous nos projets drainent derrière eux toutes les industries de l'électronique, de l'informatique, de l'engineering. Donc si on voit les retombées économiques de ces projets-là, elles sont énormes. Donc si on réfléchit du point de vue économique, moi, je conseillerais aux politiciens d'investir sur nous. Mais du point de vue fondamental, je pense que voilà, c'est l'histoire de la civilisation. Si on est au cœur si on considère qu'on est la fer de lance de la civilisation occidentale actuelle, si on n'investit pas dans les sciences fondamentales, c'est que c'est le début de la fin de quelque chose, pour moi. Donc je pense que l'humanité a toujours été drivée, a toujours été portée par des gens qui croient à l'inconnu. L'inconnu, c'est investir sur l'inconnu, c'est investir sur quelque chose qu'on connaît. On connaît très bien l'exemple typique de si on avait investi sur l'inconnu au début du 19e siècle, ça serait investir pour développer des bougies plus performantes au lieu d'investir sur la découverte de l'électricité qui nous a donné la lumière industrielle qu'on connaît tous, qui est géniale, qui a rien à voir avec la bougie. Donc c'est juste pour vous donner l'exemple, c'est le fondamental, c'est l'inconnu qui peut ouvrir sur des débouchés mais énormes pour l'humanité.
Toutes ces urgences-là, climatiques et environnementales, parlons de celles-là, en tout cas ce qui concerne notre Terre. Toutes ces urgences à gérer, mais également les métamorphoses sociales qui concernent le monde du travail, sa robotisation, toutes ces angoisses-là, vous ne pensez pas qu'elles vont freiner peut-être l'investissement dans la recherche de l'ailleurs aussi, du céleste, et d'une fuite de notre Terre ?
Effectivement, on peut s'attaquer au fait de, et je pense que chacun doit s'attaquer déjà au fait d'avoir une meilleure terre et d'avoir une possibilité de vivre comme il faut dans les prochaines années. Mais il y a cette possibilité aussi d'essayer de trouver une solution, une autre solution qui, pour l'instant, n'apparaît pas. Les deux sont à faire. Et même dans la recherche, je sais qu'il y a des mouvements dans la recherche pour réduire l'empreinte carbone, pour diminuer notre impact environnemental, que ce soit en informatique, que ce soit dans les voyages, dans les trucs. Donc il y a énormément de choses qui sont faites pour participer à cet effort collectif qui doit être fait pour sauver la planète et pour nous sauver, nous. Cela n'empêche pas d'aller chercher aussi une autre solution ailleurs et de voir s'il n'y a pas, enfin d'essayer de trouver une autre solution.
Mieux qu'on comprend l'univers et le monde dans lequel on vit, le plus qu'on trouvera des solutions pour y vivre mieux. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est complexe comme phrase, mais juste pour revenir à votre question, mais. Je pense que c'est assez complexe comme monde dans lequel on vit. Donc, je ne répondrai pas par une question binaire en disant c'est ça ou ça. C'est tout en même temps. Donc, c'est l'urgence climatique. Ben, on sait qu'on a qu'une seule terre. Donc, il faut en prendre non seulement prendre conscience de ça et en prendre soin parce qu'on n'en aura pas d'autres. Donc, mais ça n'empêche pas l'humanité d'avancer au niveau technologique ou au niveau compréhension, et en se disant que ben, si on a des exagérations au niveau, je ne sais pas, consommation d'énergie ou autres actes qui peuvent aller contre la continuité de notre aventure humaine sur Terre, ben, l'optimisation serait la bienvenue. Mais ce n'est pas on fait ça ou ça. C'est on fait tout, mais d'une façon rationnelle, consciente, réfléchie. Ouais. Et je pense que ce que nous faisons dans la science, c'est pas de trouver un autre monde ailleurs. Peut-être, why not, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que c'est pour comprendre, pour se donner les moyens pour mieux vivre sur Terre, en la respectant.
Vous, pourquoi vous avez décidé, jeune, de vous lancer dans ce type de carrière ?
Parce que ça faisait rêver les filles.
Attention, j'ai enregistré. Donc là, ça va partir, là. Non, c'est un bond.
Ouais, on va ouvrir l'épisode comme ça, je pense.
Non, mais c'est sérieux, si, je pense que si je dis... Non, je pense que j'avais dit une fois, ça a été pris au sérieux. Je pense que moi, je cherchais Dieu. Je suis né dans une famille très croyante, très pratiquante, donc d'origine musulmane, donc voilà, les dogmes étaient là, tout était bien expliqué. Et l'avantage du Coran, ça va peut-être vous étonner, mais le Coran, il dit, Dieu a créé cet univers, si vous le cherchez, cherchez-le dans cet univers. Donc moi, je me suis dit, en plus, ceux qui sont le plus proches de Dieu, c'est ceux qui ont la science. Du coup, je me suis dit, mais c'est parfait. Je vais faire la science, je vais faire de la physique des particules. Parce que c'est la physique vraiment du fondamental, ce qui constitue notre univers. Et voilà, je me suis lancé dans la physique des particules. Donc j'ai fait une thèse, j'ai trouvé plein de particules, j'ai collaboré à plein d'expériences. Et là, l'aventure continue. Parce que après 20 ans en physique des particules, je me suis dit, la réponse que j'ai trouvée à ma question d'origine, c'est que, en fait, tu trouves ce que tu cherches. Si vraiment t'as envie de trouver Dieu dans les particules, tu le trouveras. Mais les particules peuvent avancer sans Dieu. Parce qu'il y a tout un... C'est comme l'histoire du Big Bang, où on a quelque chose qui a été déclenché il y a 15 milliards d'années, et ça continue. Donc après, on peut mettre derrière soit de la philosophie, de la religion, Dieu, tout ce que vous voulez, soit on se dit c'est le hasard et la nécessité qui font de telle sorte que les particules se rassemblent.
Pourquoi je suis moi rentré dans ces trucs-là? Je vais parler un peu sérieusement. C'est un peu dans le même style, mais moins peut-être philosophique sur l'existence de Dieu, mais c'est plus sur la beauté. En fait, moi je suis corse et je passe mes vacances en Corse. Et quand j'étais gamin, je m'allongeais sur la plage. Et je regardais le ciel. Et on était tous là, à regarder le ciel, allongés sur la plage, et on passait des heures. Et cette beauté du ciel, cette beauté de la Voie lactée qu'on voyait passer, des étoiles, c'était tellement, tellement rassurant, malgré l'infinité, tellement rassurant, tellement beau, que je me suis dit, voilà, là, ce serait bien d'aller là. Ce serait bien de travailler là-dedans et de voir ça. Donc un peu, je ne cherchais pas Dieu, mais la beauté et le bien-être, voilà ce que je cherchais. Et c'est bon, je crois que je l'ai trouvé.
Et juste pour finir, je suis parti de physique des particules, qui est ce qu'on appelle l'infiniment petit. Et là, actuellement, je suis dans l'infiniment grand, qui est l'univers. Et j'ai fait donc le voyage de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est une aventure extraordinaire.
Ah, c'est un beau voyage.
Le ciel.
C'est un beau voyage.
Voilà, et c'est vrai que je découvre ce nouveau domaine. Hein. Moi, je ne suis pas de formation astrophysicien ou cosmologue, donc je découvre et c'est fantastique comme aventure humaine.
Humaine, oui. Alors ça aussi, il faut pas oublier, c'est que bon, c'est bien, c'est des galaxies, c'est loin, mais il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus. Il y a énormément de gens au laboratoire d'astrophysique de Marseille, comme au CPPM aussi. Il y a énormément de gens, des gens qui sont très bons. Des gens qui sont très humains, des gens qui sont incroyables, que ce soit des gens qui travaillent en permanence, c'est-à-dire des gens qui sont au CNRS ou des gens qui sont en CDD avec nous, qui à la fois humainement et techniquement sont très très bons. Donc moi je voulais les remercier aussi parce que ce sont des gens avec qui on travaille tous les jours et qui nous permettent d'avancer à une vitesse incroyable.
Même si les échelles sont immenses, sont internationales, presque cosmiques, même en termes de ressources humaines à l'échelle du projet Euclide, vous avez vraiment le sentiment entre vous de faire équipe, d'être dans un même vaisseau.
Ah, c'est sur ce projet. En fait, le monde, malgré ce, c'était très joli, hein, ce que tu as dit, c'était super joli. Non, j'adore. Mais effectivement, le monde de l'astro est très petit aussi. C'est-à-dire, on retrouve à peu près les mêmes personnes. On retrouve tout au long de sa carrière, on retrouve les mêmes personnes qui travaillent à peu près les mêmes personnes qui travaillent sur des projets différents. Donc, les projets évoluent, les personnes restent. Les personnes restent parce qu'elles ont des compétences et parce que elles savent drainer aussi d'autres personnes. Et effectivement, c'est vraiment un monde où on a plaisir à se revoir, où on a plaisir à se rencontrer, où on a plaisir à travailler ensemble. Donc, c'est effectivement l'idée du vaisseau. Qui part vers... j'adore. Non, c'est très très joli. C'est très
le bien. Vaisseau Euclide.
Le vaisseau Euclide qui part. Non, mais c'est vraiment ça. En tout cas, dans notre région, en tout cas à Marseille, en tout cas, c'est toujours un plaisir de se revoir, c'est toujours un plaisir de se rencontrer, de discuter, d'aller boire un coup, de travailler ensemble, et d'aller boire un coup et de travailler en même temps, et, parce qu'on n'arrête pas, je pense aussi. Même quand on discute le soir, même quand on sort le soir, on discute aussi un peu de ça.
La preuve, c'est que le NISP est monté aux lames, Les détecteurs qui sont dans le plan focal ont été caractérisés aussi ppm. Les données scientifiques spectroscopiques sont analysées au LAM. Les données du NISP sont simulées au CPPM. Donc il y a une très grande synergie entre le LAM et le CPPM. Et bien évidemment, non seulement il y a le vaisseau Euclide, mais il y a le vaisseau Euclide de Marseille qui est bien solidaire et bien. Ouais. Je pense qu'on travaille dans une bonne ambiance.
Ah oui, dans une très bonne ambiance.
Je pense que Euclide a commencé en 2007. Donc les données vont arriver en 2022-2023. Imaginez combien d'années il a fallu pour avoir les premières données. Jusqu'à 2027, ça va faire 20 ans. Entre les premières idées du projet jusqu'à la fin de l'analyse des données. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé ma thèse, il y avait un grand chercheur qui m'a dit « Smaïn, profite bien parce que tu sais, maintenant les projets, ça dure maintenant entre 15 et 20 ans. Ça va être un ou deux projets que tu verras pendant toute ta carrière scientifique. » Et c'est vrai, il s'est pas beaucoup trompé parce que j'en ai fait le premier pendant une dizaine d'années, puis j'ai quitté avant la fin. Le deuxième, toujours en physique des particules, donc c'était, j'ai travaillé sur un accélérateur de particules en Allemagne, à Hambourg, puis après un autre à Chicago. Donc ça fait déjà une vingtaine d'années. Et ces projets-là, chacun prend à lui tout seul 20 ans entre le début et la fin. Et là, avec Euclide, on est parti vers 2030 facilement. Comment on gère la durée de vie d'un projet, c'est très personnel, c'est très individuel. Il y a des gens qui préfèrent être sur plusieurs projets. Il y en a qui préfèrent préparer des projets en même temps qu'un projet est en train de finir. Ça dépend des gens. Moi, je suis du genre à bien profiter des projets quand ils sont là. Quand il y a les données, je suis très content. Parce que je suis un data voir, donc j'aime bien. Parce que, voilà, le but de toutes les expériences, c'est d'avoir des données et de voir comparer la théorie à l'expérience. C'est magnifique. Les premières données, c'est extraordinaire. C'est quasi extatique. C'est mystique. Et donc voilà. Après, est-ce que on continue jusqu'à la fin de Euclide? On est encore jeune, Christian, n'est-ce pas? Donc
oui.
Voilà. Donc.
Bon, ce sera un petit projet après. Non, mais en plus, ça donne vraiment l'image. Enfin, quand on regarde ça, et justement, on dit qu'on passe 15 ans, qu'on fait 2-3 projets de ce niveau-là, ça montre vraiment notre place dans l'univers. C'est-à-dire, l'univers, il est resté, il va observer, on va observer, on va passer toute une vie à observer 3 fois l'univers. Donc, on est tout petit, mais tout petit par rapport à l'univers. Donc, ça remet à sa place, en fait, à sa place et dans l'univers et dans le monde entier aussi, pour dire, OK.
Mais grand,
on peut faire.
Mais grand en même temps.
Mais grand.
Mais grand en même temps parce que je sais pas quel est le philosophe ou le penseur qui a dit ça. Il a dit mais c'est quand même impressionnant. On est tout petit dans l'univers, mais cet être tout minuscule, c'est un grain de sable dans une méga plage, je ne sais où. Mais ce grain de sable, il a un cerveau qui est capable d'englober l'univers dans lequel il est. Donc c'est impressionnant. Nous, le grain de sable, on imagine, on observe vers 13,8 milliards d'années l'univers dans lequel on vit. C'est impressionnant.
Sans totalement le comprendre. Après, c'est toujours pareil, c'est l'urgence. Il y a l'urgence, c'est un peu les pyramides pour exister. On veut d'abord se protéger, ensuite on veut survivre, enfin survivre, se protéger. Et ensuite, quand on a le temps, on pense à autre chose. À la philosophie, on pense à Dieu, on pense à plein de choses. Donc il faut asseoir d'abord, c'est avoir une bonne assise pour pouvoir commencer à avoir la tête dans les étoiles. Je voulais juste rebondir sur le fait que, en fait, on est tout petit dans l'univers, mais effectivement, ce que tu disais, Smaïn, c'est que on essaye d'apporter quand même quelque chose. On essaye d'apporter et à travailler justement dans les projets spatiaux, travailler sur l'univers, ça apporte d'un point de vue personnel énormément, énormément. C'est-à-dire qu'on sent apporter quelque chose, même si c'est tout petit, mais apporter quelque chose à la connaissance.
Quand j'étais petit, je passais mes étés dans la Drôme et je m'allongeais dehors, je regardais la voûte céleste. Et ouais, j'avais une sensation de vertige. Tomber dans la voûte céleste.
On essaye de peser l'univers.
Le métier à tisser l'univers.
On est tout et rien dans l'univers. On est la chose la plus avancée que l'on connaisse de l'univers. Donc quelque chose qui nous dépasse complètement.
Comme